C'est le bloc hockey junior avec Stéphane Leroux qu'on joue au bout du fil. Salut Stéphane.
Salut Pierre.
Stéphane, t'as assisté aux deux matchs des voltigeurs à Drummondville. Je me l'ai dit hier.
Non, j'étais là vendredi.
Vendredi.
Hier, je suivais Piquet-Souban.
Ah ben oui.
Évidemment, quand Piquet s'amène en ville, ça bouscule les affectations des salles de nouvelles.
Alors, ben oui.
Hier, j'ai eu droit à Piquet en avant-midi, puis Piquet après le match aussi.
OK, alors t'as quand même, tu t'es tenu au courant de ce qui s'est passé.
Le match, le deuxième match, je l'ai regardé quand même des grands bouts à la télé là, avec la neige et tout ça. Mais écoute, c'est une première expérience pour Drummondville dans une classique hivernale. Et quand on leur parlait avant le début de cette aventure-là, ils espéraient attirer le 2 Salcombe, soit 12 000 spectateurs. Il y avait 6 000 sièges installés là, au parc de la patinoire Victor Pépin à Drummondville, en plein centre-ville. C'était vraiment un beau, on va prendre l'expression anglaise, c'était vraiment un beau setup, comme on dit. Là. Mais finalement, au total, il y aurait eu 9 716 spectateurs pour les deux matchs, ce qui est quand même très bien. Là. Écoute, les voltigeurs attirent en moyenne à peu près 2 100 spectateurs par match habituellement. Puis là, ben, ça a été 4 002 puis 5 500 hier. Alors, tu sais, c'est beaucoup d'investissement pour la ville de Drummondville, pour les commanditaires, pour les voltigeurs et tout ça. On l'a fait. Moi, je pense que c'est une réussite. Écoute, les voltigeurs ont gagné vendredi, ont perdu hier contre les Tigres de Victoriaville. Mais dans l'ensemble, je pense que pour une deuxième édition de classique hivernal de la LHMQ, là, les voltigeurs peuvent dire mission accomplie. L'an prochain, on va le refaire à Saint-Tite dans le cadre du 50e anniversaire de Ligue junior majeure du Québec et par le fait même du 50e anniversaire de la concession de Shawinigan, qui est la seule représentée dans le circuit de depuis les tout débuts. Alors, on va retourner là, sur le site du Festival Western, où là, c'était vraiment extraordinaire. Aussi, on l'avait fait en 2015. Écoute, donc, t'as l'impression que c'est fait pour ça.
Ben oui.
Dire, l'enceinte entre les estrades, la patinoire rentre juste, comme on dit, le 200 par 85, là, il était fait. Tu sais, à Drummondville, on avait une patinoire, on a voulu construire les estrades. À Saint-Tite, on a les estrades pour construire une patinoire.
Exact.
Mais honnêtement, ça avait très bien été à Saint-Tite aussi il y a quelques années, puis on va le refaire l'an prochain. Puis Gilles Courteau nous a dit vendredi dans le point de presse avant le match que d'autres équipes s'informaient de la possibilité de tenir éventuellement des matchs en extérieur.
Ouais.
Il a parlé des remparts, il a parlé du Phoenix de Sherbrooke, il a même parlé de Moncton un peu qui s'est informé, sans en faire nécessairement un événement annuel, peut-être aux deux ans. T'sais, là, on avait une en 2015, on a eu une en 2018, on va en avoir une l'an prochain. Peut-être que 2021, là, il y aura au PEBS d'Université Laval ou à l'Université de Sherbrooke également, où il y a des endroits possibles là, d'imaginer ça. Mais moi, je verrais ça à Québec, peut-être dans le temps du tournoi Pee-Wee, là, pourquoi pas. Il y a toujours
absolument
un match des remparts le mardi soir. Là,
oui.
J'allais dire au Colisée, au Centre Vidéotron. Il y a toujours un match, c'est qu'on fait une trêve là, le mardi soir pour un match des remparts. Mm-hmm. Pourquoi pas jumeler tout ça là, avec les Pee-Wee? Peut-être, c'est peut-être un projet qu'on va voir éventuellement.
Oui, puis jouer un ou deux matchs Pee-Wee
sur
la patinoire extérieure, effectivement, en même temps. Par contre, comme tu dis, moi, je suis pas sûr que ce serait une bonne idée de le faire à chaque année. D'abord, ça coûte des gros sous, puis la Ligue junior majeure du Québec n'a pas les mêmes moyens que la Ligue nationale. Puis
non.
Je trouve que la Ligue nationale le fait trop souvent aussi, puis ça perd de la magie.
Peut-être, alors, effectivement, tu as raison. Et écoute, à Drummondville, on a parlé d'un investissement d'à peu près 600 000 $ là, pour louer les estrades et tout ça. Tu sais. Alors, c'est sûr qu'on vend les billets un petit peu plus cher, puis on attire un petit peu plus de monde, mais je sais pas là, le bilan que feront les voltigeurs là, de ces deux matchs-là. Je sais pas si on va être dans le rouge un petit peu, mais ça a fait parler de la Ligue, en tout cas. C'est ça qui est le fun aussi. Ça a fait parler de Drummondville. Tu sais, il y avait toutes sortes d'activités autour. Là. Il y avait des concerts alentour, puis contrairement à Saint-Tite, où c'est un site extraordinaire aussi, mais là, à Drummondville, c'était vraiment dans le centre-ville de Drummondville, sur la rue Lindsay, là, à côté du cinéma, à côté de la bibliothèque. Alors, tu sais, moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Honnêtement, vendredi, là, j'ai bien aimé l'expérience, puis la température a collaboré aussi, même si hier, là, le match a été plus long, il fallait passer la gratte, comme on dit, pour enlever la neige, là, un peu comme on l'a fait à Buffalo pendant le championnat du monde, mais dans l'ensemble, je pense que la dame nature a quand même collaboré.
Oui, il y a toujours ce risque-là de la neige. D'ailleurs, Louis Robitaille, l'entraîneur-chef des Tigres, remarque que c'est plus facile à dire quand tu es du côté des gagnants après le match, mais il a trouvé que ça avait été un match féerique.
Oui, c'est ça. Pas sûr que la fille serait au rendez-vous pour Louis s'il avait perdu.
Non,
mais,
c'est ça.
Au-delà de ça, tu sais, imagine, je regarde la température aujourd'hui, je sais pas ce que ça a l'air là à Québec, mais tu sais, la pluie vers de la centre qui tombe en ce moment, là, ça serait pas chic pour jouer dehors. Tu sais, ce matin, on a joué le dernier match parce qu'il y avait un troisième volet ce matin à Drummondville, où là, c'était un match Midget 3A entre les cantonniers de Magog et les Gaulois de Saint-Hyacinthe. C'est la fin de la saison dans le Média 3 aujourd'hui aussi. Puis ils ont l'air d'avoir bien aimé l'expérience de ce que j'ai pu lire là, sur les médias sociaux.
OK. Stéphane, il reste un tout petit peu plus d'un mois au calendrier régulier de la Ligue junior majeure du Québec. On s'est parlé souvent après la période des transactions, entre autres, quelles équipes avaient fait des pas en avant, qui avaient fait des pas en arrière. Est-ce que les équipes qui sont en avant, d'après toi, ce sont celles qui devaient se retrouver en avant ou s'il y a des surprises qui ne sont pas à leur place?
Ben, je regarde là, le classement. Tu sais, tu regardes l'Armada de Blainville-Boisbriand qui, présentement, est sur une séquence de 14 matchs sans défaite en temps réglementaire. Puis ils mènent 2-0 encore cet après-midi au Cap-Breton. Tu sais, cet après-midi, c'est le retour de Drake Patterson au Cap-Breton qui a été acquis par l'Armada. Il a marqué les deux buts dans le match jusqu'ici. Et t'as Alex Barry-Boulay, qui est le premier compteur du circuit, qui a 99 points. Là, il va peut-être atteindre le plateau des 100 points cet après-midi. Là, il n'avait pas récolté de points sur les deux premiers buts, mais eux, ils se sont améliorés, ils sont là. Batters ne cesse de progresser. Ils ont 9 victoires dans leurs 10 derniers matchs. Le Titan qui grimpe au classement à la suite de la période des transactions, c'est normal aussi. Les Tigres de Victoriaville, dont on parlait, eux aussi, ça roule bien. 8 victoires dans leurs 10 derniers matchs, 5 victoires de suite. Ils sont rendus seulement 6 points derrière Rimouski, puis ils ont dépassé Québec. Alors, tu sais, ce sont des équipes qui se sont améliorées pendant la période des transactions et qui, pour l'instant, là, ça s'en va dans le bon sens. Puis tu regardes le contraire d'une équipe comme les Foreurs de Val-d'Or qui ne gagne plus, qui accorde 6-7 buts par match depuis la fin de la période des transactions parce qu'on a liquidé ce qu'on avait à liquider à Val-d'Or. Puis ils vont avoir de la difficulté là à se maintenir en série. Présentement, là, ils ont 4 points d'avance sur Shawinigan avec une quinzaine de matchs à jouer. Puis les Cataractes jouent un petit peu mieux là, que les Foreurs. Les Cataractes, c'est toujours des matchs un peu plus serrés. Val-d'Or, je regarde leur voyage cette semaine. Là, ils ont perdu 7-1 à Victoriaville, 7-0 à Rimouski, 6-1. Je veux dire, ils marquent à peu près pas de buts. Ils donnent 40-45 lancés par match. Alors, ça va être difficile pour les Foreurs. Ah, mais on s'y attendait.
C'est l'équipe qui a donné le plus de buts depuis le début de la saison puis qui en a marqué le moins.
Oui, puis on accorde beaucoup de lancers. Puis ce qui me fait peur un peu, c'est que, bon, on a un jeune gardien qui est là, qui a 16 ans, qui Jonathan Lemieux, là, qui apprend, dans le fond, dans la misère un petit peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu regardes Shawinigan, Saint-John, ils vont se battre pour la fin. Moi, l'équipe qui me déçoit, honnêtement, c'est Bécomo. Là, on attendait beaucoup plus du Drakkar de Bécomo en début de saison. Puis on s'est résigné à échanger Antoine Samuel à Québec à la période des fêtes. Puis c'est une équipe qui décolle pas présentement. Sherbrooke, j'ai hâte de voir aussi. C'est une équipe qui me déçoit un peu. Là, Lou Green est revenu jeudi soir. C'est un défenseur qui a été quand même choisi par les Jets de Winnipeg en deuxième ronde, qui a raté les 52 premiers matchs de la saison à la suite d'une blessure subie au camp des Jets. Là, il est de retour depuis jeudi. Alors bon, Sherbrooke a gagné jeudi, a perdu vendredi le match à Drummondville, mais mène cet après-midi. C'est un gars que veut pas va faire du Phoenix de Sherbrooke une meilleure formation pour terminer la saison. Mais quand on parle de déception un peu dans la saison cette année, c'est sûr que Sherbrooke est là aussi dans le rang des déceptions.
OK. Au moment où on se parle, il y a déjà Blainville-Boisbriand, Halifax, Rimouski, Drummondville, Acadie-Batters et Rouyn-Noranda qui sont mathématiquement assurés d'une place en éliminatoire. Mais de toute façon, il y en a 16 sur 18.
Là, je voulais rassurer. La lutte pour les séries, ça va être entre Val-d'Or, Saint-John et Shawinigan pour le dernier rang. J'ai l'impression que les 15 autres sont dans les séries. Hey, je ne sais pas si tu as vu cet après-midi, je viens de voir ça là, juste avant de rentrer en onde avec toi. Otto Sumpi a marqué un but pour Halifax cet après-midi. C'est un Finlandais qui appartient au Lightning. À la Crosby, là, derrière le filet, là, la cuillère, là, puis il a passé au-dessus de l'épaule du gardien des Cataractes. Là, je pense que vous allez le revoir dans vos bulletins de nouvelles préférés, mais déjà, si vous allez là, sur les Twitter de ce monde, là, moi, je viens de le remettre sur mon compte, là, c'est vraiment... Puis lui, contrairement à Crosby, là, il a fait ça en mouvement, là, il s'est même pas arrêté derrière le filet. Là,
ou en plus.
C'est vraiment un très beau but là, de Otto Sumpi. Écoute, faut que je te parle aussi d'Alexis Lafrenière. Il est rendu à 33 buts, il a 16 ans seulement. C'est phénoménal ce qu'il fait depuis le début de la saison. C'est un gars qui est pas admissible au repêchage de la Ligue nationale avant 2020. Dans les deux pique-niques là, de l'Océanique, il a ajouté 4 buts à sa fiche en fin de semaine. Alors, c'est vraiment là tout un espoir là, pour la Ligue nationale, mais pas avant 2020. Alors, déjà, on dit de lui qu'il va être le premier choix en 2020. C'est loin encore, là, mais... Il répond vraiment aux attentes. Il a été choisi premier au total par l'Océanique et honnêtement, il connaît toute une saison. Là. Je regardais hier à Tampa Vincent Le Cavalier, on a retiré le chandail. Il me fait beaucoup penser, tu sais, le parallèle entre parce que les deux sont à Rimouski. Moi, je pense sincèrement, là, sans rien enlever à Le Cavalier, là, que Lafrenière est meilleur que Le Cavalier à 16 ans, au même âge. Alors, on verra si Lafrenière aura le même genre de carrière. Il ne faut quand même pas partir en part. Mais si on
compare
16 ans pour 16 ans, là, moi, je me rappelle de Le Cavalier à 16 ans, puis je regarde Lafrenière jouer, là, puis les dépisteurs sont déjà en pamoison devant lui, puis il n'est pas admissible avant 3 ans.
Oui, ils vont baver pendant 3 ans.
Oui, effectivement.
Stéphane, merci beaucoup, puis on s'en parle bientôt.
Ça fait plaisir. Salut, Pierre.
Salut, Stéphane Leroux, avec qui on parle de hockey junior. Donc, rappelons-le, Titan de la Casse Batters mène 5-1 sur Chicoutimi, 4-1 pour Halifax contre Shawinigan, 2-0 pour l'Armada de Blainville-Boisbriand sur le Cap-Breton et 2-0 pour Sherbrooke devant Gatineau. Ce sont les matchs qui sont présentement en cours. Et juste avant d'aller à la pause, je vous rappelle que le Canada a remporté 4 médailles aux Jeux olympiques dans la journée de dimanche à Pyeongchang. Max Parot, la médaille d'argent. Mark McMorris, la médaille de bronze, les deux en snowboard dans l'épreuve de slopestyle. Il y a également Justine Dufour-Lapointe, médaille d'argent à l'épreuve des bosses en ski acrobatique. Elle avait remporté l'or à Sochi il y a 4 ans, mais elle a dit après la compétition, et on aura l'occasion de l'entendre dans la deuxième heure de l'émission, pour elle, la médaille d'argent d'aujourd'hui, c'est plus gros que sa médaille d'or à Sochi en raison du contexte. On connaît la maladie de sa mère, etc. Et Ted-Yan Blomen de Calgary a remporté une médaille d'argent également aux 5000 mètres chez les hommes en patinage de vitesse longue piste. On fait la pause information. Au retour, on prend des nouvelles d'un ancien de la Ligue nationale qui dirige maintenant une équipe Pee-Wee, Yannick Perrault, qui dirige le Mission de Chicago au tournoi Pee-Wee de Québec.